Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Yann, bonjour.
Bonjour.
Yann Faquin, vous êtes éditeur des éditions du Vieux Chêne, des éditions qui traitent avant tout du bois. Pour vous, c'est un parti pris ?
Oui, alors déjà ça parle du bois, mais avant tout du travail du bois avec les outils, avec des outils à main. Et donc, on existe depuis 2017 et on en est à notre 8e livre, donc on en sort un par an. Voilà.
Et ces éditions, vous les produisez vous-même dans la teneur ou dans la photographie, dans le dessin
Alors non, en fait, ce sont avant tout des traductions. Et en fait, on existe parce que c'était pour pallier un manque, c'est-à-dire qu'il y avait des sujets qui n'étaient pas ou très peu abordés dans la littérature française, donc il y avait un manque à ce niveau-là. Et c'était des sujets qui étaient par contre qui étaient assez bien développés à l'étranger, et en particulier aux États-Unis ou en Angleterre. Et donc, à partir de là, moi, j'ai traduit des livres qui me semblaient importants pour moi. Et ensuite, ils ont été corrigés par plusieurs personnes. Et puis, donc ensuite, on les fait imprimer par un imprimeur en France. Et puis ensuite, on les distribue à travers notre site.
C'est essentiellement du texte, mais il y a aussi certainement des figures, des photographies, des dessins techniques.
Oui, alors il y a tout ça. Alors c'est vrai qu'on reprend la maquette originale qu'on adapte. Donc on reprend un peu la mise en forme, on va dire. Les photos sont les mêmes, les illustrations sont les mêmes, mais parfois on est obligé par contre de les refaire, parce que par exemple un auteur va avoir écrit sur une pièce de bois une indication en particulier dans sa langue, et si on le laisse tel quel, ça ne fonctionne pas. Donc en fait on refait la scène et on reprend la photo en écrivant en français dessus. Voilà. Donc on adapte.
Vous dites donc avoir eu cette idée d'éditer ces ouvrages concernant le travail du bois. Selon vous, il y avait très peu de propositions sur le marché français, par exemple ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment qu'il y a très peu de propositions, c'est plus sur ces sujets en particulier qui manquaient des informations. Après, il existe bon nombre d'ouvrages, déjà, en France, mais ces sujets, en tout cas, pour lesquels, moi, je cherchais de l'information, ça manquait. En l'occurrence, le premier, c'était sur les rabots métalliques. Et il y avait, on peut dire, à peu de choses près, rien. Il y a un ouvrage de référence qui traite principalement des rabots en bois, mais très très peu sur les rabots métalliques. Or, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les rabots métalliques. Les fabricants produisent des rabots métalliques et très peu de rabots en bois. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée.
Cette idée d'édition du bois, donc c'était pour votre intérêt. Vous travaillez vous-même le bois ?
Oui, en tout cas, à l'époque, quand j'ai créé la maison d'édition, j'étais ébéniste d'art. C'était en Nouvelle-Calédonie. Et donc, oui, moi j'en avais besoin. J'en avais besoin pour mon travail. Donc vraiment, savoir apprendre à utiliser un rabot, c'était... Quand vous achetez un rabot, vous n'avez pas un mode d'emploi malheureusement avec. Et donc c'était à travers les livres que j'ai pu apprendre beaucoup de choses.
Le réglage notamment, l'affûtage.
Tout à fait.
Ouais. Voilà, tout est entretien de l'outil. Hein. Et vous me dites que vous étiez en Nouvelle-Calédonie pour de l'ébénisterie d'art. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie dans cette ébénisterie d'art ?
Non, finalement, c'était très similaire à la France. Hein. Je faisais pas grand-chose de différent. Disons que moi-même, n'étant pas d'origine calédonienne, je ne faisais pas, par exemple, de la sculpture kanak ou des choses comme ça. Je fabriquais des coffrets en bois ou j'ai fait des chaises à palabres. Je travaillais beaucoup sur demande, en fait. On me demandait des choses et je les fabriquais. Après, j'ai fabriqué des kalimbas, je fabriquais des instruments de musique. Donc voilà, je faisais. Comme j'étais aussi apiculteur, je fabriquais mes ruches. Donc je faisais un peu. Ouais, je travaillais beaucoup le bois en tout cas.
Et là, vous avez, vous continuez dans cette activité du travail du bois, ou alors vous vous êtes consacré plus à l'édition ?
Eh ben, par la force des choses, je me consacre beaucoup plus à l'édition, sans toutefois avoir lâché le travail du bois, puisque quand on publie un livre, il y a de nombreux essais à faire. Par exemple, là, le prochain qu'on va sortir, ça sera sur la fabrication de rabots en bois. Eh ben, je vais fabriquer un rabot en bois, je vais vérifier que tout ce qu'on va publier tienne la route, soit cohérent, et que, par exemple, les mesures qu'on va donner, eh ben, il faut qu'ensuite on puisse s'y tenir et fabriquer le rabot qui est indiqué dans le livre.
D'ailleurs, pour vous, vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous êtes allé aussi sur d'autres lieux de pays étrangers, et de vous nourrir aussi de la manière de travailler le bois dans chaque endroit ?
Là, pour le coup, non. Non, j'étais avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie, j'étais en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et après, je suis resté longtemps. Je suis resté 10 ans, enfin 11 ans en Nouvelle-Calédonie et 10 ans sur l'île de Marais. C'était une toute petite île, en fait. Et donc, il y avait très, très peu de choses. Il n'y avait rien, en fait. Et j'avais le besoin, en fait, de travailler avec des outils à main parce qu'on ne pouvait pas avoir de grosses machines à bois, machines stationnaires. C'était très compliqué parce qu'il fallait les importer. Et d'un point de vue logistique, c'était franchement pas évident. Donc, en fait, c'est comme ça que je me suis vraiment ouvert au travail du bois avec des outils à main. Et c'est tout ce dont traite nos livres aujourd'hui.
Et en même temps, vous avez une grande polyvalence de tout ce qu'on peut traiter avec le bois, que ce soit donc la menuiserie, de l'ébénisterie, la charpente peut-être aussi. Est-ce que vous êtes passé par toutes ces étapes pour connaître un peu toutes les manières différentes de travailler le bois avec les outils adéquats ?
Oui, complètement. Ouais. Après la charpente, j'irai peut-être pas jusque-là, même si dernièrement j'en ai fait un tout petit peu et encore. Si, c'est de la charpente, parce qu'on a fabriqué un plafond avec des solives, etc. Mais oui, c'est un peu... il faut être ouvert, en fait, hein, pour aimer déjà travailler le bois, et puis pour apprendre plein de techniques, et puis toujours chercher des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, des nouveaux outils, et apprendre le métier.
Est-ce que le bois aussi, comme certains arts, où le principe, ça serait d'en montrer le moins possible pour signifier le mieux ? Et est-ce que, pour vous, est-ce qu'il y a une philosophie de la construction avec un minimum de moyens pour un maximum de robustesse ? Est-ce qu'il y a cette notion-là ?
Bien sûr.
Ou alors c'est plus un domaine où on construit sans compter ?
Non. En tout cas, je vais parler pour l'auteur puisque je ne suis que traducteur, mais l'idée qu'on transmet ici, c'est de fabriquer simple et pérenne, déjà pour passer à travers tous les effets de mode. Donc, en fait, on va avoir ce qu'on appelle nous des meubles paysans, et c'est des meubles que généralement on retrouve difficilement dans les musées. C'est pas des meubles de style. Et c'est des meubles qu'on a toujours fabriqués, que les gens, les paysans, savaient fabriquer. Ils utilisaient des assemblages simples, comme le tenon et la mortaise conique, qui pour comme le banc qu'on a ici, plus on s'assoit, plus l'assemblage va se renforcer. Et c'est vraiment ingénieux, et c'est très simple. C'est à la fois ingénieux et simple. Et puis il faut des meubles robustes pour pouvoir les transmettre. Et c'est vrai que plus ils sont simples et plus on peut les transmettre, parce que, comme je disais au début, l'effet de mode, eh ben, il n'a pas lieu d'être, quoi. On n'a pas des sculptures, on n'a pas des moulures, on a vraiment des meubles très très simples. Ouais.
Le bois, essentiellement, c'est celui du chêne qui vous intéresse, ou alors il y a des bois plus intéressants ou qui vous passionnent plus ?
Alors... je découvre le bois, en France en tout cas, parce que bon, je découvre, ça fait quand même 5 ans que nous sommes revenus de Nouvelle-Calédonie. Donc en Nouvelle-Calédonie, on travaillait des bois locaux, beaucoup de kaori, il y avait du muriel, il y avait plein d'essences en fait qu'on n'utilise pas ici, avec des propriétés différentes. Et en rentrant en France, bah, j'ai dû apprendre le chêne, le châtaignier, le frêne. Il y a beaucoup d'essences intéressantes. Et puis voilà, en discutant avec les gens, on apprend quelles sont les propriétés de certains, pourquoi il est plus intéressant d'utiliser tel ou tel bois, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Donc nous aujourd'hui, enfin moi quand je dois travailler le bois, ce qu'on fait c'est qu'on a une petite scierie à la maison avec une tronçonneuse. C'est un système qui est vraiment ingénieux mais très très intéressant et on se fait livrer du bois de chauffage en longueur de 2 mètres et puis on le débite en plateau qu'on fait sécher ensuite ou pas suivant les fabrications qu'on fait. Mais par exemple là pour fabriquer un tabouret ou une chaise, on a besoin de bois vert, donc de bois encore frais qui doit être travaillé avec des outils à main, donc qui est beaucoup plus tendre et beaucoup plus facile à travailler. Et autant pour la scie, donc ça c'est pour le piétement, le bois vert, et pour la scie, on utilisera plus un bois déjà sec. Voilà, pour utiliser en fait les propriétés des bois verts et bois secs.
Et le fait de travailler un bois vert, vous prenez en compte aussi son séchage et peut-être aussi les déformations qui pourraient s'en suivre?
Ah oui, c'est important. Puis garder bien le fil d'un bout à l'autre. Quand on se sert d'un piétement, quand on doit fabriquer un piétement, il faut bien s'assurer que la fibre parte bien d'une extrémité et arrive à l'autre. Ça évite d'avoir ces problèmes qu'on rencontre souvent, parfois en tout cas, sur les piétements des tabourets, par exemple, qui sont fendus de biais et qui cassent. C'est parce que la fibre n'a pas été respectée d'un bout à l'autre.
Vous parliez de ce bois qui existait en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'ils ont des propriétés similaires à celui qu'on peut trouver ici, même si ce ne sont pas les mêmes noms, mais au niveau de la résistance physique, de la résistance à l'humidité, est-ce qu'il a des bois, et peut-être aussi des bois beaucoup plus nobles, comme l'ébène, est-ce qu'il y a des équivalences?
Alors oui, on a tout type de bois, et les propriétés, après... disons que, comment vous dire, en fait, les propriétés, c'est la densité, pour beaucoup. Le fil, est-ce qu'il est droit ou est-ce qu'on a beaucoup de contre-fil? On a la couleur qui est importante, les dessins. Et puis après, oui, sa résistance mécanique. On a tout un tas de propriétés, c'est vrai. Et puis dans les bois exotiques, qu'on va appeler exotiques ici, qui ne le sont pas là-bas, on rencontre des bois plus ou moins similaires, certains avec certaines propriétés plus accentuées que d'autres, mais dans l'ensemble, on peut retrouver des bois avec des propriétés identiques. Ouais.
Avec des arbres de plus ou moins longue longévité d'âge aussi?
Oui, après, c'est vraiment des arbres complètement différents d'ici. Ouais, ça, les forêts sont vraiment différentes, c'est un autre type de forêt avec d'autres types de fruits, de graines, vraiment, des tailles différentes, des diamètres différents, c'est vraiment, c'est hyper intéressant. Moi, j'adorais me balader en forêt.
Vous disiez être passé par la Nouvelle-Zélande également, oui. L'Australie aussi.
Oui.
Pour vous, ça a été de vous imprégner de cette culture océanienne?
Les raisons pour lesquelles j'ai été là-bas?
Oui, est-ce qu'il y a une culture qui est un peu similaire sur cet océan Indien?
C'est vaste comme question.
Ouais. Non, mais est-ce que vous avez eu cette envie de découverte?
Oui, moi déjà, j'ai terminé mes études, je suis parti tout de suite après, quelques mois après, mais voilà, j'avais... Il fallait que je parte, donc je suis parti d'abord en Nouvelle-Zélande, je suis resté un an là-bas, où je voyageais et je trouvais du travail de ferme en ferme, pour pouvoir me subvenir à mes besoins primaires d'alimentation. Et puis ensuite, je suis parti deux années en Australie, où j'avais plus ou moins déjà... j'avais encore le même mode de vie. Donc je vivais dans un van, un véhicule, et puis j'allais où le vent me menait pour découvrir le pays. Ouais. Ouais.
Les éditions du Chêne, donc c'est votre activité principale maintenant. C'est du temps qui vous prend? C'est chronophage comme activité? Vous êtes en recherche aussi?
Ouais, c'est extrêmement chronophage. Et en fait, ça dépend des livres. Certains vont être beaucoup plus chronophages que d'autres, et surtout, ça dépend de la taille du livre. Autant les deux derniers qu'on a fait, ça s'apparente plus à du livre de poche. Donc c'était plus rapide, on va dire, au niveau de la traduction. Même si le dernier s'appelle « Se soigner à l'atelier », là, on touchait encore à un domaine auquel on n'avait pas touché, puisque c'est le secteur médical. pour beaucoup. Donc il a fallu faire beaucoup de recherches au niveau du vocabulaire. On s'est fait relire par des personnes du métier, etc. Mais sinon, oui, certaines fois, je me souviens aller me coucher à 2h du matin pour me relever à 6h pour reprendre une traduction. Ouais. Donc oui, et puis ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il y a la partie traduction. Et après, il y a aussi la partie édition, il y a la partie site, il y a la partie relation avec les lecteurs. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a les mails. Puis il y a la partie contrat. Il faut lire aussi beaucoup d'ouvrages étrangers. C'est ce que je passe une bonne... Il y a un mois ou deux où je passe beaucoup de temps à lire des ouvrages. Donc j'ai des contacts et des éditeurs étrangers qui m'envoient des ouvrages qui pourraient potentiellement m'intéresser, donc que j'étudie.
Ce sont des éditeurs qui ont peut-être vécu un peu les mêmes aventures que vous. Est-ce qu'ils ont eu cette envie de voyager à travers le monde, s'enrichir
Les autres éditeurs étrangers, vous voulez dire?
Avec qui vous correspondez, par exemple? Pas forcément. Est-ce que vous échangez, d'ailleurs, entre vous, au-delà de l'édition, simplement?
Honnêtement, je travaille principalement avec deux éditeurs. Deux éditeurs à l'origine, mais plus qu'un maintenant, parce que le premier, il n'existe plus. Donc aujourd'hui, je travaille principalement avec Lost Art Press, dont l'un des fondateurs est Christopher Schwartz, qui est l'un des auteurs qu'on traduit. Et au début, on avait un échange assez qui allait au-delà du contrat, mais pas tant en fait, hein, parce lui, de son côté, il n'a pas tant de temps que ça, parce que pareil, il est à fond. Lui, en fait, il est menuisier, donc il a son atelier de menuiseries en bas de chez lui, et donc il donne des cours et puis en même temps il écrit des livres, mais en plus d'écrire des livres il édite d'autres auteurs, donc c'est quelqu'un qui dort pas beaucoup et qui passe sa vie à ça, à sa passion. Donc après on a très, très peu d'échanges. On se contacte quand c'est nécessaire, mais au-delà de ça, non, on a très peu de contacts, ouais.
Vous êtes en quelque sorte aussi, d'une certaine manière, à transmettre aussi un savoir, hein, avec ces ouvrages. Pour vous, c'est aussi important de transmettre des savoir-faire. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous motive à éditer ces ouvrages qui viennent des États-Unis, notamment? Est-ce qu'il y a une culture du bois qui a disparu ici? C'est vrai qu'aux États-Unis, la plupart des maisons sont construites en bois, avec l'ossature, alors que nous, on est plutôt dans la pierre. C'est aussi cet esprit pionnier de pouvoir construire au plus vite avec la végétation.
Alors, la première question, c'était qu'est-ce qui me...
La transmission.
Là, ouais, c'était ça, c'était sur la transmission. Alors oui, parce que mon but, c'est un peu de transmettre quand même, au-delà de ça, parce qu'à l'origine, le premier livre, quand je l'ai traduit, il m'était destiné à moi. Je n'avais pas du tout l'idée de créer une maison d'édition. Je le traduisais pour moi. Et puis après, au fur et à mesure, l'idée est venue. Et l'idée, c'est de combler un manque dans la littérature française. Donc une fois que ce manque sera, de mon point de vue, vraiment de mon point de vue, parce qu'après, il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord, mais qui sera comblé, la maison d'édition n'aura plus lieu d'exister. Donc je passerai à autre chose, j'arrêterai, et puis mes livres, je continuerai à les vendre tant qu'il y aura du stock, et puis après, voilà. Et puis, donc, la deuxième question, oui, c'est les savoir pourquoi... en fait, ce qui s'est passé, et je pense, et je me trompe peut-être, mais c'est qu'on avait plein de savoirs en France qui ont disparu, et très probablement dû à l'arrivée de beaucoup de machines. Les machines ont un peu tué l'outil manuel. Et ces savoir-faire, à notre grande chance, il est parti pour beaucoup aux États-Unis. En tout cas, en Angleterre, ils ne l'ont pas perdu, ça c'est sûr. Mais aux États-Unis, eux, ils l'ont cultivé, ce savoir-faire. Et des auteurs comme Christopher Schwartz, en fait, ils sont là pour écrire des livres sur ce sujet et puis transmettre ces savoirs qui ont perduré là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que certains des livres que nous, on a publiés, ils ont utilisé des planches d'auteurs très anciens, mais français. C'est-à-dire que vous avez retrouvé des vieilles planches de vieux ouvrages français. Donc en fait, on voit vraiment qu'ils ont quand même une inspiration européenne, française, pour pas toujours, mais parfois française, et ils la transmettent dans les livres. Et nous, aujourd'hui, bah, à travers les Américains, on récupère un peu notre savoir, ce qui est bien, en final, c'est un échange.
Quand on parle de ébénisterie d'art, comment peut-on définir ce métier ?
Alors, c'est une très bonne question. Moi, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, il me fallait un statut, parce que quand j'ai commencé à travailler le bois, bah, il a fallu que j'officialise tout ça. Et c'est en fait une personne de la CMA qui est venue voir ce que je faisais. Et c'est elle qui m'a dit, bah, ce que vous faites, c'est de l'ébénisterie d'art. Et elle m'a expliqué qu'en fait, c'est quand on faisait des réalisations, mais il ne fallait pas, quand on faisait des séries, que cela dépasse 7 exemplaires. Je crois que c'était ça, je crois que c'était 7 exemplaires. Donc si vous êtes en dessous de 7 exemplaires, vous êtes ébéniste d'art. Voilà. Donc ça, c'était ça.
Comme les sculpteurs ou les graveurs, il y a une quantité limitée.
Voilà. Oui, probablement. Ouais.
Oui. Et donc il y a cet aspect-là, tout simplement. Ouais.
Voilà. Et puis après, bon, moi, je dirais que j'étais plus tabletier parce que je faisais plutôt des petits coffrets. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, les choses... à la fois, j'utilisais un peu le nombre d'or, je faisais des choses à la fois carrées et puis avec des assemblages complémentaires qui étaient courbes. Alors, j'utilisais un peu des machines, j'apprenais en même temps que je fabriquais, donc c'était passionnant.
Et donc chez vous, le mobilier est construit par vous ?
Oui, j'essaye du moins, parce que c'est vrai que j'ai pas, parce que comme on vient, je dis à chaque fois on vient d'arriver, mais bon, ça fait déjà 5 ans qu'on est arrivé, on a beaucoup de travaux en fait à faire. À la maison, donc le mobilier, c'est vrai que pour l'instant il est assez sommaire, on va dire, mais j'ai beaucoup d'idées et j'ai hâte de m'y lancer. Bon, j'ai commencé un peu, mais c'est toujours trop insuffisant, et c'est vrai qu'on a préparé le bois, donc on a préparé les plateaux qu'on a sciés, donc pour l'instant il sèche, et puis quand il sera prêt, je vais m'attaquer au mobilier, et quand j'aurai trouvé un peu de temps aussi pour faire tout ça. Ouais.
Il y a une clientèle qui est toujours amoureuse de ces objets en bois et qui est prête à payer le prix qu'il faut.
Eh ben j'espère, parce que c'est un peu la survie des artisans, hein, là derrière. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les clients prêts à payer le savoir-faire, le temps passé à fabriquer des objets, ben c'est la mort de l'artisanat, quoi. Et pas seulement, je parle pas seulement pour l'ébénisterie ou la menuiserie, je pense que c'est dans beaucoup de corps de métier, en tout cas dans l'artisanat, où c'est beaucoup comme ça. Ouais. Ouais. Donc j'espère qu'il y a encore des gens qui sont prêts à payer ce savoir. Ouais.
Yann, on peut découvrir votre travail sur Internet ?
Oui, alors c'est donc les éditions du Vieux Chêne, c'est www.ed comme David, V comme Victor, C comme Christophe. .fr, edvc.fr. Et puis voilà, chaque année on sort un nouveau livre, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et donc on en a un qui va sortir cet automne 2025. Et puis après on a une page Facebook aussi où on tient un peu à jour, on explique un peu ce qu'on fait, ce qu'on découvre. Et puis qu'est-ce qu'on a, une autre chose, et là j'ai perdu le fil.
Yann, merci beaucoup.
Merci à vous, à bientôt,
au revoir.
Mmh.